À venir à l'émission, Jacques Villeneuve sur les 500 000 d'Indianapolis qu'il a déjà gagné. Céleste Dao, cette jeune de 17 ans qui s'en va jouer l'Omnium féminin de golf des États-Unis. Nous aurons en direct de Québec Camille et Stéphane. On sait que David Lemieux n'a pas fait le poids. Il y aura un combat demain. Analyse de Jacques Thériault et Sébastien Gauthier à venir également. Et Samuel Piette de l'Impact qui s'envole ce soir là au Minnesota va nous parler de l'affrontement de demain. Philippe Quentin est avec nous. Bonsoir Philippe.
Salut Mario.
Alors, tu as suivi attentivement l'exercice de consultation publique qui a été effectué par le groupe qui veut ramener le baseball à Montréal, laquelle... Trouves-tu que ça servait à quelque chose? Parce que dans le fond, je regardais ça, là, on n'apprend pas grand-chose là-dedans. Je ne vois pas en quoi ça devient un élément de levier, quelque chose qui est intéressant pour le baseball majeur, parce que c'est comme un peu prévisible, tu trouves pas, non?
Ouais, mais je pense que pour les promoteurs derrière le projet, c'est toujours intéressant. Moi, dans mon ancienne vie, Mario, j'ai eu l'occasion de participer à des focus group en étant de l'autre côté de la vitre et d'écouter ce que les gens avaient à dire sur la presse au moment où j'étais patron, quand on pensait à lancer certaines initiatives. Et c'est toujours très intéressant, parce que, bon, tu perçois comment les gens analysent ton produit ou envisagent des propositions que tu peux leur suggérer. Et tu en retires toujours quelque chose, ne serait-ce que dans les conversations que tu vas avoir avec tes collègues par la suite. Okay. Alors, moi, je pense qu'on a su par la suite que Stephen Bronfman, là, en tout cas, il est allé saluer un ou deux groupes après, donc il a dû assister à plusieurs minutes de ça. Je suis convaincu qu'il en est ressorti avec des idées parce que c'est intéressant d'entendre les gens parler. Ça peut parfois simplement te conforter dans une idée que tu avais auparavant, mais parfois ça peut t'amener sur d'autres pistes, des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Puis ça te permet aussi de vérifier jusqu'à quel point les gens sont attachés à l'idée que tu leur présentes. Alors, dans ce cas-ci, c'est sûr qu'on demandait surtout à des amateurs de baseball. Alors, on s'imagine bien sûr que les gens étaient pas mal en faveur du retour des expos, mais il en reste pas moins qui ont probablement validé des informations intéressantes.
Par rapport notamment au sujet de la possibilité d'un toit rétractable, bon. Et je sais qu'à travers différentes conversations que j'ai eu, notamment au Stade olympique, quand les budgets sont venus avec Stephen Bronfman. Quand on parle du toit, il y a les réponses des gens consultés, mais lui, il parle de chaleur, il parle de chauffer, mais je pense qu'il réalise que le coût du toit, je ne suis pas sûr qu'ils vont aller là, Philippe. Qu'est-ce que tu en penses?
Non, moi, écoute, je suis convaincu que s'il n'y a pas de toit rétractable sur ce stade-là, on va reparler, disons que les expos reviennent, là, qu'il
n'y
a pas de toit
sujet,
rétractable, ouais. On va reparler de l'avenir des expos 5 ans après leur retour. Parce que je pense qu'aujourd'hui, pour présenter des matchs de baseball en avril et en mai, puis on sait que les calendriers commencent encore plus tôt. Tu as vu le nombre de matchs qui ont été annulés cette saison en avril, là, partout dans le nord-est des États-Unis. Et la température qui, même quand il y a des matchs, est souvent froide, pluvieuse. Bref, tu n'as pas le goût d'aller voir un match de baseball. Le qui à Montréal, là, est-ce qu'on pense sérieusement qu'on va avoir 25 000 personnes un mardi le 28 avril un match à 7 heures le soir, là, s'il fait froid, puis il pleut, puis qu'on peut quand même jouer au baseball, moi, je ne pense pas. Et ça fait en sorte que le sujet des assistances va revenir sur le tapis, comme ça a été tellement souvent le cas dans l'histoire des expos. En fait, des fois, je fais des recherches dans des vieux articles publiés dans la presse, Mario, puis c'est incroyable. Le sujet des assistances...
C'était tout le
là,
temps ça.
Hein? Ben oui, à partir de... Il y a eu les belles années, là, 79, 80, 81, 82, un peu, là, 2 millions de personnes et même plus, là, 2,3 millions, puis les expos étaient dans les équipes qui attiraient le mieux dans la Ligue nationale de baseball à l'époque. Mais à partir de 87-88, ça commence à se gâter. 86 même. Et c'est un sujet continuel de conversation. Un des malheurs...
Mais est-ce que tu crois que c'est une obsession plus ici qu'ailleurs? Ben, pas juste avec les expos, mais tu sais, tous nos produits sportifs, là, les bancs vides, tu sais, quand il y a des bancs vides au centre
de... C'est une obsession, je pense, quand les propriétaires font en sorte que ça devient une obsession parce qu'ils en parlent. Et sais-tu quand est-ce qu'ils en parlent? Ils en parlent quand ils n'ont pas beaucoup de billets de saison. Parce que la différence, c'est les billets de saison. Les billets de saison t'assurent une base économique récurrente année après année si tu es capable d'en conserver le même niveau. Puis si tu n'as pas beaucoup de billets de saison, là, tu es obligé de travailler tellement fort pour vendre tes billets à l'unité, que ce soit des ventes de groupe, des plans, toutes sortes de soirées, des étudiants, puis des aînés, puis bon, etc. On sait que l'imagination n'a pas de limite, là, surtout au baseball. Mais il n'en reste pas moins que tout ça, ça devient extrêmement exigeant, puis tu es toujours à la merci des performances de ton équipe aussi. Tu peux très bien te retrouver au mois de septembre, tu joues devant 5000 personnes parce que ton équipe est à 25 matchs de la tête. Et donc, si tu n'as pas une base de billets de saison, ça devient un problème. Et l'ennui que les expos ont toujours eu dans le passé, c'est que la base de billets de saison n'était pas assez solide, et l'Impact connaît un peu le même problème aujourd'hui. Donc, c'est difficile. Et moi, là, je regarde ça, puis je me dis, est-ce qu'on veut vraiment retourner dans ce problème-là? Et si t'es pas capable d'aller à un match de baseball sans assurer de ressortir de là en étant au sec, puis en n'ayant pas attrapé le rhume, puis tu sais, en n'ayant pas les mains gelées, puis être passé à travers une boîte de Kleenex, je pense que ça prend un toit rétractable. Je te dis pas que ça prend un toit qui doit être tellement solide qu'il faut qu'il soit capable d'endurer la neige l'hiver. Non, ça pourrait être un toit. À l'époque, quand on avait parlé du stade de la Batte, tu te souviens, là, à la fin des années 90, au centre-ville, derrière le centre oui. Bell, où aujourd'hui on a construit des condos, là. Mais à l'époque, c'était là que Claude Brochu voulait construire le stade de la Batte. Et on parlait d'un toit parapluie, là. Et donc, c'était un genre de toit de même, une structure qui permettait de jouer même s'il pleuvait. Et moi, je pense que ça prend quelque chose comme ça. Sans ça, je vois mal comment ils vont pouvoir attirer des bonnes assistances. Il y a 2 ans, j'ai vérifié avec les Blue Jays de Toronto. J'ai contacté l'organisation pour leur demander c'est quand le premier match où ils ont ouvert le toit au Rogers Center. Et de mémoire, Mario, là, c'était autour du 20 au 21 mai. Donc, ils avaient joué tous les matchs du mois d'avril à domicile et tous les matchs des 3 premières semaines de mai avec le toit fermé parce qu'il ne faisait pas assez beau. Et là, on ne parle pas de 3 matchs ou 4 matchs. Là, on parle déjà de près de 2 mois de saison. Alors,
tu sais que je suis tout à fait d'accord avec ça, puis je veux juste conclure là-dessus avec ma ligne des dernières années. C'est si on est pour y aller en cassé, tout semaine à regarder les Blue Jays à la télé ou
je suis pleinement d'accord avec toi. Il faut mettre, expression historique au Québec, ça prend les conditions gagnantes.
Oui, monsieur.
Les expos. Mais les conditions gagnantes pour moi dans ça, il y a un toit rétractable.
Je sais pas si t'as entendu, en tout cas, Daniel Brière qui n'appréciait pas vraiment Alex Ovechkin comme adversaire. Ils ont eu bien des altercations, là. Il a été quand même élogieux envers lui. Est-ce que ça ressemble à son année 2018, Philippe?
Bon, d'abord, félicitations, Mario. À la suite de notre conversation de mercredi. Les derniers mots, t'as dit, je t'avais entendu en parler auparavant, je pense que c'était avec Danny que tu pensais que les Capitals allaient gagner ce 7e match, et moi j'étais dit non, ça va être Tampa Bay. Tampa Bay, aucun but dans les 2 dernières rencontres, alors tu avais vu juste, je tiens à t'en féliciter.
Ah, t'es bien gentil, ben ça compense toutes les fois, j'ai pas vu juste. Mais le rouleau compresseur a fait son œuvre, je pense.
Ouais, c'est ça. Écoute, j'ai trouvé Ovechkin extraordinaire dans ce match-là. Je pense qu'il a réglé le match dans les 90 premières secondes. Son boulet de canon au début du match pour donner le premier but aux Capitals, je pense que ça scié les jambes du Lightning de Tampa Bay. On les a sentis ébranlés à partir de ce moment-là et on a senti à l'inverse les Capitals galvanisés. Leur capitaine, leur meneur venait de marquer un but à la Ovechkin. Là. Pas une petite mêlée devant le but, la rondelle frappe 2 patins, non. Un boulet de 40 pieds dans le haut du filet.
Ouais, mais c'est une garnotte, hein? Mon Philippe. C'est une vraie de vraie.
Comme dirait Mario, top corner. Elle rentrait. Et ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment... tu sais, à partir de ce moment-là, tu sentais... Bon, alors, il y a beaucoup de confiance du côté des Capitals de Washington, on le voit. Et là, ben moi, je me dis, coudonc, est-ce que les Las Vegas va pouvoir continuer ses miracles? Peut-être. Ça sera encore une fois une histoire extraordinaire s'il gagnait la Coupe Stanley. Mais j'ai l'impression qu'Ovechkin attend sa Coupe depuis tellement longtemps. Et en plus, on disait que c'était fini, là, après les 2 dernières années où ils ont été décevants, on pensait que la fameuse fenêtre d'opportunité était passée. Il est quand même rendu à 32 ans, Ovechkin. Là, s'il veut gagner une coupe, il va voir que ça se passe plus vite que tard. En tout cas, une coupe où il va être le leader de son équipe. Là. On ne sait pas comment il peut terminer sa carrière par la suite, mais s'il va être vraiment un leader, mener son équipe, je pense que c'est une des dernières chances qu'il a. Se retrouver en finale de la Coupe Stanley, ça ne lui est pas arrivé en carrière. C'est la première fois. Il a la chance de gagner une coupe. Et un joueur comme lui qui a passé sa carrière dans l'ombre à quelque part de Sidney Crosby, là, il faut le dire, il est extraordinaire Ovechkin, mais quand t'es dans la même génération que Sidney Crosby qui a tout gagné, c'est bon, tu passes deuxième, mais il y a au moins une chance de gagner une Coupe Stanley. Je pense que pour des joueurs d'exception comme lui, des gars qui ont marqué 600 buts dans la Ligue nationale, qui ont marqué leur époque, gagner une Coupe, c'est tellement essentiel. C'est toujours triste quand tu penses à de grands joueurs puis tu dis, ah, ils n'ont pas gagné la Coupe Stanley. T'sais, tu penses à Marcel Dion qui n'a pas gagné la Coupe Stanley, c'est plate. Tu penses à Peter Stachny qui n'a pas gagné la Coupe Stanley, c'est plate. Tu sais, Ovechkin, s'il ne gagnait pas, ça serait plate aussi. Puis tu as plusieurs grands joueurs dans l'histoire des Rangers qui l'ont pas gagné, oui. Dans les années 60-70. Alors, tu souhaites toujours que les grands joueurs puissent au moins en épingler une à leur palmarès. Et cette année, je pense que c'est l'occasion pour Ovechkin. Je pense qu'il le sent. Je pense qu'il va jouer du hockey extraordinaire. Moi, je m'attends à ce que les Capitals l'emportent. Mais regarde, Las Vegas nous fait mentir depuis le début des séries.
Philippe, Philippe, en conclusion, peut-être un commentaire le plus sommaire sur la politique que présente la NFL pour la prochaine saison là, par rapport aux protestations. Plus de genoux à terre. Si vous voulez protester, c'est en restant dans le vestiaire, vous allez le faire. Il y a un gars qui est très vocal dans le sport professionnel aux États-Unis, c'est Steve Kerr, l'entraîneur-chef des Warriors de Golden State, qui a qualifié d'idiot ou d'idiote la proposition. Qu'en penses-tu, toi?
Ah ben, ces commentaires, je les ai trouvés extraordinaires et bien envoyés. Si l'idée, c'est qu'ils peuvent seulement protester dans le vestiaire, c'est que d'autres l'ont dit avant moi, mais ça veut dire qu'ils peuvent pas protester. Mais au-delà de ça, au-delà du fond de l'affaire, que moi je trouve que c'est une décision regrettable, il y a absolument aucun doute là-dessus. La liberté de s'exprimer, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Mais là, semble-t-il qu'on y place des limites autour de l'hymne national et on divise bon les bons et les méchants. En tout cas, j'ai beaucoup de problèmes avec une pensée comme celle-là. Mais au-delà du débat philosophique autour de ça, Mario, ça empire les relations entre les joueurs et la direction de la Ligue nationale de football. Relations qui sont déjà pas bonnes, tout simplement parce que cette décision-là, c'est une décision unilatérale des propriétaires. Au début de cette controverse-là autour des hymnes nationaux, ils ont pris grand soin de dire qu'ils voulaient travailler avec leurs partenaires, les joueurs. Ils ont fait des meetings conjoints à New York, puis ils écoutaient les joueurs, des propriétaires avec des leaders des joueurs et tout et tout. Mais là, on voit que ce qui est arrivé, c'est, regarde, ils ont décidé tout seuls dans un bureau, ils ont annoncé la nouvelle. Je pense pas que c'est une façon de procéder dans le sport professionnel aujourd'hui.
Intéressant. Excuse-moi, j'avais fermé mon micro par inadvertance. Je n'étais plus capable de le rallumer. Fait que tu m'as trouvé que je répondais pas vite, mon cher Philippe. Puis j'allais te dire, donc c'est Washington ta prédiction. On s'en reparle lundi.
Tout à fait.
OK, moi je vais avec Vegas, mais garde.
Bon, ben, ça vous donner de quoi jaser pendant une couple de semaines.
Bonne fin de semaine, Philippe. On parle de boxe au retour. Camille Stéphane avec nous.